Alors évidemment, les discussions vont beaucoup plus vite que l'émission, dès qu'on a le dos tourné, nos experts. Alors là, nous étions par exemple sur le paranormal, la parapsychologie appliquée à l'espionnage, appliquée par les militaires. On sait que ça a été une grande course entre notamment les Américains et les Russes, que chacun a travaillé réellement sérieusement là-dessus, employé des médiums, voir si on pouvait travailler avec des médiums. Pierre évoquait l'histoire qui aurait, en fait, serait été une intox qui aurait démarré tout ça, d'après vous, c'est ça ?
L'intox, c'est Jacques Bergier, qui, à l'époque, donc un peu avant le Matin des Magiciens, avait raconté à un jeune journaliste de sciences et vie qui s'appelait Messadier, lui avait raconté une histoire d'expérience de télépathie à bord du Nautilus, de sous-marin nucléaire Nautilus américain, pendant que le Nautilus était sous la calotte polaire. Et donc l'information est parue comme une information fiable en une de Sciences et Vie, je crois que c'était en janvier 60 ou janvier 61, enfin c'est à cette époque-là. Les Russes ont vu l'article, bien évidemment. Ils se sont dit, si les Américains font des recherches pareilles, il faut pas qu'on reste derrière. Donc ils ont lancé un programme. Et quand les Américains, par la CIA interposée et tout, ont commencé à recevoir des dossiers d'espions comme quoi les Russes faisaient de la psychotronique et d'autres expériences de parapsychologie, ils se sont dit, on peut pas non plus décemment rester derrière. Donc finalement, Jacques Bergier a fait dépenser quelques millions de dollars à pas mal de bonhommes dans les administrations russes américaines. Et je pense qu'il doit en rire encore.
Oui. Alors, y a-t-il eu un résultat ou pas? En tout cas, dans les domaines de la parapsychologie, psychologie, on peut consulter les rapports du dernier programme en date, celui que la CIA avait mené Stargate pendant une douzaine d'années à peu près, et donc on a quand même aujourd'hui toutes ces expériences. Certains en tirent la conclusion d'ailleurs que de temps en temps les médiums, là ils appellent ça en l'occurrence remote viewing, c'est-à-dire qu'on leur montre un point sur une carte et ils doivent dans leur transe visualiser ce qu'il y a à ce point-là, et de temps en temps il y en a qui tombent avec une justesse tout à fait étonnante. Donc est-ce que ça pourrait exister? Oui, peut-être, d'après les recherches, sauf que c'est absolument pas fiable, puisque des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc ça n'intéresse pas vraiment les militaires, parce que eux ils veulent du fiable, c'est-à-dire quelque chose dont on ne sait pas si ça va être vrai ou pas. De toute façon, même s'il y a eu des hits de temps en temps tout à fait étonnants, c'est quand même pas assez solide pour eux, donc on peut considérer qu'en tout cas, c'est ce qu'ils disent maintenant les Américains, bon, on a exploré cette piste, ça n'a pas vraiment marché. Alors Mark Filterman n'est peut-être pas d'accord là-dessus, mais sur en tout cas l'emploi, est-ce qu'on emploie encore aujourd'hui, est-ce qu'on fait ce type de recherche,
c'est-à-dire ce qu'on les emploie surtout pour confirmer des informations qu'on a déjà. Par exemple, effectivement, on avait demandé à certains médiums parce qu'on avait constaté la présence de puits, et on voulait savoir, par exemple, la profondeur des puits à cet endroit-là. Donc, le médium a dit, par exemple, je sais pas, le puits, pour lui, semblait faire 300 mètres. Mais par contre, il était incapable de dire si c'était un puits avec de l'eau, un puits avec du pétrole. Par contre, le fait que le médium puisse dire, par exemple, que le puits était 300 mètres permettait de dire aux militaires, à ce moment-là, que c'était un puits pour faire une explosion nucléaire. Voilà un exemple. Bon, c'est comme quand vous avez un médium qui dessine quelque chose de rond. Bon, cet objet, c'est un problème d'interprétation en réalité. Le médium, il va dire, je vois quelque chose de rond. Maintenant, est-ce que c'est un ballon ou par exemple un réservoir de gaz dans une zone pétrochimique? Bon, parce que ça a une forme ronde également.
Ouais.
Il dessine quelque chose, lui, il voit quelque chose dans son esprit, mais il ne sait pas à quoi il sert.
Alors, pourquoi j'ai plus rien dans mon casque? Bon, merci. Donc je voudrais surtout qu'on parle de ces histoires de contrôle mental, parce que c'est vrai que bon, la parapsychologie, ça marche pas. Après tout, bon, si les services secrets veulent essayer de continuer à travailler là-dessus,
ils apportent leur contribution à la recherche scientifique.
Voilà.
Puis voir ce qu'il y a de vrai ou pas dans ces domaines-là.
Voilà. Puis on peut dire que, dans une certaine mesure, ça ne fait de mal à personne. Alors que les recherches qu'on va évoquer maintenant, là, en l'occurrence, il paraît que d'après, en tout cas, ceux qui pensent à leur existence réelle, là, vraiment, ça abîme. Ça fait du mal aux gens. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des évidences qui nous permettraient de dire que certains militaires, certains services secrets se servent d'armes de type, alors de ce que les Américains appellent le contrôle mental, c'est-à-dire que par des rayonnements, on peut réellement rentrer un peu dans la tête de quelqu'un, lui faire faire quelque chose, ou au moins lui faire percevoir certaines sensations agréables ou désagréables? Est-ce qu'on est au début d'une espèce de guerre dite psychotronique, c'est-à-dire qui viserait à contrôler les gens à distance? Alors Mark Filterman, c'est ce que vous semblez dire, si j'ai bien lu votre livre, etc. Donc, quelles sont les évidences pour ça?
Alors, effectivement, dans le livre Les Armes de l'Ombre, j'ai un chapitre dans lequel je parle du docteur George Baker, où il a participé à une conférence, c'était le 17 de novembre 93, et cette conférence, l'objectif, c'était de parler de l'option attractive des armes RF, donc des armes radiofréquences ou non létales, ou ce qu'on appelle également en Europe armes de déception. Donc,
déception en
anglais. Voilà, oui. On,
déception en anglais, oui.
On utilise également en français aussi. Mais, bon, George Baker a révélé un truc intéressant à l'époque, c'est que pour lui, ces armes-là avaient déjà été utilisées notamment contre des groupes d'activistes de Greenpeace dans la période 80-84, je crois que c'était la période des missiles Pershing d'ailleurs, où il y a eu de nombreuses manifestations en Angleterre. Et pour lui, effectivement, il avait déclaré lors de cette conférence que ces armes-là avaient été utilisées contre les pacifistes de Greenpeace.
Alors, attends, on va s'arrêter effectivement sur cet épisode parce qu'il commence à être relativement bien connu et c'est effectivement un peu au départ ensuite de tout ce qui a été dit sur le contrôle mental. Alors, on sait effectivement que les femmes pacifistes qui manifestaient autour de cette base militaire américaine ont commencé à se plaindre de tas de symptômes assez bizarres, de violents maux de tête, d'insomnie, de problèmes menstruels, de tas de trucs un peu bizarres et que donc, à un moment, quelqu'un a dit, mais est-ce que c'est pas lié à l'électromagnétisme, par exemple? Donc, on est allé faire des mesures et on a découvert, effectivement, et ça c'est officiel, que le taux de la densité de puissance des micro-ondes autour de cette base et notamment là où stationnaient les pacifistes était tout à fait énorme. Donc, on peut penser, effectivement, qu'il y a eu une sorte de, ah, ils nous font chier, et ben là, on va brancher nos radars, etc. et les bassiner dans une grosse ambiance électromagnétique de micro-ondes et ça va leur causer des problèmes de santé. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Alors, cela dit, on n'est pas encore au stade de ce qu'on appelle la manipulation mentale. On sait qu'on peut...
Un coup de gueule, quoi.
Voilà, on peut créer des malaises, c'est sûr, avec une forte puissance de rayonnement, on peut très bien créer des situations inconfortables, des malaises et même des ennuis pour la santé. C'est une attaque assez grossière, disons, du corps entier et du système nerveux. Maintenant, on imagine, enfin, ceux qui défendent l'idée d'une conspiration pour tenue secrète, mais qui vise vraiment à apprendre à contrôler les gens. Là, il faut imaginer des choses beaucoup plus précises, quelque chose qui nous force à faire quelque chose qui pénètre vraiment dans notre cerveau.
Alors, moi, je peux prendre mon expérience personnelle, puisque j'ai travaillé sur les radars, mais à titre personnel, j'avais un blocus avec une dizaine de radars. Et à l'époque, sur la base où j'étais, donc jusqu'en 84, au niveau du taxiway, on voyait le système radar, le radar SRE qui était à 500 mètres, 800 mètres du taxiway. Et c'est vrai qu'on ressentait, pour les personnes les plus sensibles, des picotements sur la peau. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, une exposition permanente de 8-10 heures par jour, face à un système radar comme ça, il est évident qu'on peut avoir des problèmes anémiques ou des problèmes...
Oui, là encore, on est sur les effets généraux sur la santé. Moi, je vous
dépressifs.
Dis, où sont les activités sur le cerveau? Puisqu'aujourd'hui, aux États-Unis et en Russie d'ailleurs aussi, on a toute une série de gens qui s'estiment victimes d'expériences secrètes, donc qui disent on m'envoie des rayons, on m'envoie des voix, on m'envoie des symptômes, on me fait faire ceci, on me fait faire cela. C'est suite à un contact que j'avais eu il y a quelques années avec la CIA ou etc. ou avec les services secrets russes. Donc il y a plein de gens qui s'estiment victimes. C'est quand même des symptômes assez classiques de la paranoïa, il faut bien le dire.
C'est ancien, oui.
Voilà, les paranos ont toujours l'impression d'entendre des voix, enfin souvent, et qu'au début du siècle, quand ils ont entendu parler de l'atome, ils ont dit on m'envoie des rayons atomiques, et maintenant ils entendent parler de l'électromagnétisme, ils disent on m'envoie des armes électromagnétiques. Donc, alors cela dit, ces gens sont pris très au sérieux par un certain nombre d'écrivains, de spécialistes. Il y a des congrès où ils apparaissent. Il y a toute une recherche autour de ça. C'est le mind control. Le mind control. Donc, l'idée, ce serait les services secrets qui effectivement essayent ça. Alors, pourquoi sur des gens qui n'ont pas d'importance particulière? Justement, parce qu'ils essayent de commencer à apprendre à s'en servir. Le but étant, plus tard, d'arriver à contrôler des politiciens, par exemple, ou des chefs militaires. Alors, ça, vous y croyez ou pas? Et s'il faut y croire, quels sont les éléments?
Justement, c'est là où je voulais en venir. Tout dépend de la modulation qui est utilisée sur les systèmes de transmission. Pour la simple et bonne raison que je me suis aperçu qu'avec les systèmes radar, par exemple, en abaissant la fréquence de récurrence, c'est-à-dire le nombre d'impulsions qu'on va émettre par seconde, on peut être soumis à des maux de tête ou à un rétrécissement également du champ de vision. C'est-à-dire que si on prend des fréquences très précises de 25 Hz, par exemple, on va se retrouver avec un rétrécissement du champ de vision. Voilà un exemple. Bon, si on abaisse les fréquences aux alentours de 6 Hz au niveau des fréquences de récurrence, on va rentrer on va provoquer par exemple des crises d'angoisse chez les personnes ou des phénomènes de dépression nerveuse, ni plus ni moins, si on est exposé en permanence. Donc effectivement, si la personne devient dépressive, ce qui peut se passer, c'est que la personne va être atteinte, va être victime de crises de paranoïa, de délire paranoïaque. Ça c'est une évidence.
Est-ce qu'il y a un programme? Que ce soit possible, d'accord, mais est-ce qu'il y a un programme?
Alors, des programmes de recherche militaire dans ce domaine-là ?
On est dans l'idée, est-ce qu'il y a un complot ou est-ce qu'on est des paranoïaques ?
Alors là, il n'y a pas de complot. C'est pas forcément une manipulation volontaire du comportement. Attention, il faut faire la nuance. Vous pouvez être soumis à des rayonnements et ce qui va vous arriver, ça va être volontaire. Il ne faut pas dire que les opérateurs, ils veulent vous provoquer des dépressions nerveuses volontairement. C'est involontaire, c'est accidentel, parce qu'effectivement, il faut bien, si vous voulez faire de la détection aérienne ou communiquer, il faut bien des émetteurs. Donc vous allez toujours avoir, à un moment donné, des gens qui vont être pris dans le lobe d'un émetteur. Si on prend les émetteurs Tétra, et nous autres, on a fait l'expérience, puisque c'était pour un reportage de France.
Alors Tétra, c'est le nouveau système qui est destiné aux ambulances, aux voitures officielles, c'est la radio onde courte.
Il a une fréquence de récurrence de 17 Hz, ce système-là, au niveau des trams. Le problème, c'est que c'est en plein dans le spectre cérébral du cerveau. Et nous autres, quand on a été sur cette terrasse-là, c'est vrai qu'on est parti de la terrasse, on était à proximité du relais, et pourtant, on n'était pas dans le lobe, on était derrière l'antenne, mais c'est vrai qu'on est parti avec des maux de tête.
Voilà, donc Marc Filterman n'est pas sur la position de dire il y a un programme secret absolument structuré là-dessus. On est plutôt dans des accidents et on joue un petit peu bras.
Il y a des programmes secrets, il faut être clair. Bon, d'ailleurs, le Pentagone a déclaré l'année dernière avoir mis vouloir développer les armes micro-ondes, vouloir en faire la production. Donc ces armes-là existent. Maintenant, il y a des sources moins officielles qui disent qu'effectivement ces armes ont pu être utilisées en Afghanistan et notamment lors de la guerre du Golfe. Mais ça, c'est pareil.
On est sur un théâtre d'opération aussi.
Intox ou pas, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de source officielle, et puis, de toute façon, les militaires ne vont pas venir dire qu'ils ont fait tel ou tel truc. Même si vous trouvez un militaire, je vais prendre par exemple le cas dans la marine française, est-ce que la parapsychologie a été testée, par exemple, par la marine nationale ? Vous ne trouverez jamais personne pour vous dire oui, ça a été fait à titre expérimental ou pas. Ce sont des trucs qui sont secrets. Ou alors le jour où vous allez trouver un militaire qui va vous le révéler, on va dire ah oui, monsieur, là, il a révélé ça. Oui, mais attention, il est en retraite, donc ce qu'il dit, c'est plus valable.
Bon, alors donc, incertitude un petit peu sur ce domaine. On va poser la question à Marc Filterman, qui a beaucoup de notes et de dossiers sur des tas de choses. Alors quels sont aujourd'hui les secrets qui lui paraissent alors vraiment indubitables, les choses les plus scandaleuses qu'on nous cache, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel il a de réelles certitudes, même si c'est pas du tout dans le domaine public? Ce sera en tout cas après un peu de musique. Oui, un peu de musique.
Nova.